Bonjour, donc je m'excuse d'avance pour mon diaporama nettement moins attractif que celui de Christine. Alors, on l'a dit, une grande partie du travail des élèves s'effectue aujourd'hui en dehors de l'école. Il n'en a pas toujours été de même dans l'histoire du travail personnel des élèves. Ce travail s'est longtemps effectué exclusivement au sein de l'institution scolaire, soit sous le regard de l'enseignant, pour ce qui se rapporte au cas de l'école primaire, soit sous le regard, pour le lycée, du répétiteur ou plus tard de l'adjoint d'enseignement. Sur ces questions, je vous renvoie aux travaux de Philippe Savoie et de Anne-Marie Chartier, et je passe là-dessus, bien sûr. Donc, même si de nombreux dispositifs d'aide aux devoirs ont vu le jour, donc depuis les années 80, en périphérie de l'école et aussi dans l'école, mais en périphérie de la classe, le travail des élèves continue de s'effectuer majoritairement à la maison, sous le regard des parents que l'on sait très inégalement disposés pour accompagner ce travail. Une étude longitudinale menée par la DEP sur la décennie 90-2000 montre que la mobilisation des familles pour le travail scolaire s'est intensifiée au cours de cette décennie. C'est très significatif parce qu'elle s'est intensifiée en dépit de l'explosion d'offres d'aide concurrentes. Donc, de plus en plus de parents aident, les pères notamment sont de plus en plus investis, ils aident de plus en plus tard dans la scolarité, ils y consacrent un peu plus de temps chaque semaine, et ils suivent les devoirs de plus en plus près, en prenant davantage l'initiative d'intervenir et en attendant moins d'être directement sollicités par leurs enfants. Donc ça, c'est une enquête de 2004. Vous pourrez trouver cette synthèse, la synthèse de cette étude dans une synthèse publiée en 2004. Pardon, excusez-moi. Cette étude montre aussi que ce phénomène touche toutes les catégories sociales. Les familles populaires, souvent taxées d'être démissionnaires ou plus laxistes sur le suivi de la scolarité, ne sont pas du tout en reste, puisque pour ce qui se rapporte aux premières années de la scolarité, ce sont elles qui suivent, qui y consacrent un peu plus de temps que les autres, chaque semaine. Quand j'ai commencé à enquêter sur la question de l'accompagnement familial en milieu populaire et immigré, j'ai sollicité des collègues du secondaire pour qu'ils m'aident à rencontrer des familles, des intervenants familiaux. Quand on ne m'a pas tout simplement proposé de changer de sujet, parce que les élèves en ZEP ne feraient pas leurs devoirs, ou parce que les parents ne suivraient de toute façon pas leur scolarité, on m'a toujours proposé d'enquêter sur le même type de famille. Un très bon élève, excellent, très autonome dans son travail, encadré de près par des parents très faiblement disposés, donc en fait qui n'aident pas réellement, et qui, par contre, opère un très fort cadrage moral et qui soutiennent très fortement leurs enfants. C'est donc un certain type de collaboration entre école et famille qu'ont mis en avant les enseignants sollicités, un modèle de coopération qui permet à la fiction institutionnelle d'un partage des tâches net, efficace, équitable entre les familles, eh bien, de se maintenir et de se légitimer. Alors, un partage des tâches net, parce que seule la tâche d'instruction reviendrait aux enseignants. Un partage des tâches efficaces parce que ce sont toujours des bons élèves qui sont proposés. Et un partage des tâches efficaces parce que si les parents le voulaient bien, tous pourraient fournir cet encadrement moral. Or, ce modèle de coopération, qui présuppose une forme d'étanchéité totale du milieu scolaire d'apprentissage, ce modèle de coopération, en réalité, il est très fortement minoritaire. Si l'accompagnement des devoirs n'engageait pas une charge d'instruction, si elle n'engageait qu'une charge d'éducation, 50% des mères peu diplômées interrogées par la DEP ne déclaraient pas avoir souvent le sentiment de manquer de compétences pour aider leurs enfants. Non pas de compétences, pardon, mais de connaissances pour aider leurs enfants. Dans ce sens-là, on ne comprendrait pas pourquoi alors on voit des clivages sociaux et pourquoi au bout d'un moment, ces mères peu diplômées ou ces parents peu diplômés décrocheraient. Donc, le modèle de division des tâches qui prédomine dans les faits implique non pas une étanchéité, mais en fait une perméabilité du milieu scolaire d'apprentissage aux logiques didactiques familiales. Alors, cette perméabilité, elle est renforcée par le fait que les parents ne se contentent pas nécessairement d'intervenir dans le traitement des devoirs, mais prescrivent aussi, parfois, du travail en plus. C'est ce qu'avait montré Glassman dans son rapport. Donc, il ne s'agit pas toujours de petites prescriptions estivales, mais il peut s'agir d'un travail régulièrement prescrit, voire quotidiennement, qui est toujours destiné à aider les enfants à mieux se préparer à affronter les épreuves scolaires. Donc, avec ces prescriptions, on a affaire à la constitution d'un véritable milieu d'apprentissage scolaire secondaire, à la mise en place d'une espèce d'institution d'enseignement bis dans la maison. Alors, le constat de cette double perméabilité du milieu didactique scolaire nous conduit bien sûr à nous interroger sur la compatibilité des systèmes didactiques et familiaux. Donc, cela revient à se demander, en fait, à se poser la question suivante. Les enfants naviguent-ils, travaillent-ils entre deux univers normatifs qui sont, enfin, travaillent-ils entre deux univers continus ou discontinus? Alors, le travail que j'ai conduit auprès d'une vingtaine d'intervenants familiaux m'a permis, conformément à mon hypothèse de départ, de mettre au jour l'existence de tensions, de contradictions, voire de malentendus entre les modes de faire familiaux et les attentes scolaires. On peut penser évidemment que ces dissonances ne favorisent pas la réussite des enfants. En décalage et parfois même en rupture avec les attentes scolaires, l'aide au travail apportée par certaines familles risque au mieux parfois d'être inopérante, voire au pire improductive, contre-productive plutôt, puisqu'elle pourrait conduire à faire travailler les enfants non pas pour l'école à la maison, mais parfois peut-être contre l'école à la maison. Voilà. Dans le cadre de cette présentation, je voudrais repartir de résultats antérieurs qui ont été produits par des sociologues ayant travaillé sur la question plus générale des pratiques éducatives familiales, ayant au passage regardé les modes de suivi. Donc, je pense aux travaux notamment de Lahir et de Daniel Tain. Je voudrais montrer comment les résultats de mon propre travail peuvent permettre de prolonger les leurs, voire de les renouveler. Alors, une des formes de dissonance qui avait été pointée par ces sociologues entre univers familial et scolaire se rapporte à la question des pratiques de surscolarisation que développent volontiers que les autres familles, donc celles des catégories populaires, dès lors qu'elles sont engagées dans le suivi du travail de leurs enfants. Alors, en plus d'un contrôle particulièrement étroit des devoirs, d'une surveillance très serrée, qui laisse donc peu de place à l'autonomie qui est attendue à l'école, cette surscolarisation se traduirait par une surexigence quant à la qualité et quant à la présentation de ce devoir, des devoirs. Daniel Tain évoque des parents qui déchirent à plusieurs reprises les devoirs tant qu'ils ne sont pas parfaitement faits et présentés. Cette surscolarisation, elle se traduirait aussi par une tendance générale à la surprescription. Donc, il évoque le cas de familles. Il remarque que les familles populaires prescrivent souvent du travail en plus, à forte dose, et on peut supposer en cela qu'elle se fonde sur une forte croyance en l'équivalent travail dont nous parlait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire en un postulat de proportionnalité entre l'effort fourni et la réussite scolaire. Avec ces résultats, s'amorce l'idée fort intéressante que les familles populaires, qui font figure parfois de véritables forçats de l'accompagnement, pourrait être prise dans une sorte de piège scolaire, dans la mesure où plus elle s'efforcerait de jouer le jeu de l'école et plus elle s'efforcerait de répondre aux attentes supposées des enseignants, plus elle travaillerait finalement un petit peu contre la réussite de leurs enfants, pour le dire un petit peu brutalement. Pour ce qui se rapporte à la question de l'autonomie, on le sait que le contrôle très étroit des devoirs n'est pas forcément efficace. Une enquête de la DEP a été menée et a mis en évidence des corrélations négatives entre ce contrôle très étroit et des résultats scolaires faibles. Par contre, pour ce qui s'agit de la surexigence et de la surprescription, on peut dire que les travaux dont on dispose ne traduisent pas véritablement dans l'ordre des savoirs ce que signifie cette surexigence et cette surprescription, ce qu'elle recouvre. Et étant donné qu'il ne se propose pas finement de regarder les processus d'apprentissage, ces travaux manquent de nous faire un petit peu comprendre ce qui dissonne véritablement du point de vue didactique entre école et famille. Donc, dans le cadre de cette intervention, je me propose d'étayer un petit peu cette thèse du piège scolaire en regardant ce qui se joue du point de vue des savoirs dans les logiques de surscolarisation familiale. Alors, au cours de mon travail, j'ai pu constater que la tendance à la surscolarisation des intervenants familiaux ne se traduit pas seulement par une surexigence de type formel sur la propreté des devoirs ou sur une exigence de type qualitative. Il faudrait trouver la bonne réponse et ce serait ça qui compterait plutôt que la démarche intellectuelle mise en œuvre. Elle porte également sur la nature du travail en jeu. Et ces constatations étayent l'idée de ce piège scolaire, puisque c'est la bonne volonté pédagogique des intervenants qui les conduit parfois à imposer des charges cognitives supplémentaires, contrariantes et contraignantes. Pour le cas de la lecture compréhension, auquel je me suis attachée plus particulièrement, cette surexigence se traduit par l'adjonction de nouvelles composantes à l'acte de lire. Dans l'univers normatif de certaines familles, l'acte de lire ne renvoie pas seulement à un travail de décodage, de traitement syntaxique des énoncés, de mémorisation de l'information, de mise en relation. On sait que ce travail est éminemment complexe, les didacticiens de la lecture l'ont montré. Il suppose aussi la réalisation d'un travail de mémorisation orthographique. Alors, ce travail, toujours prescrit par les intervenants familiaux à des élèves en grande difficulté, dans le but de les aider, constitue bien évidemment une lourde charge supplémentaire, hein, qui mobilise une grande partie des ressources cognitives dont les enfants disposent pour lire, et on peut légitimement penser qu'elle entraîne des pertes de compréhension. Je vous ai mis l'extrait ici d'une séance. Non, pardon, excusez-moi. Je vous ai mis l'extrait, pas d'une séance, mais d'un entretien mené donc avec une intervenante familiale, Augustine, 61 ans, aide-soignante retraitée. Alors, la première charge cognitive surnuméraire qu'elle prescrit, elle, pour lire à la maison, donc c'est bien sûr lire un texte et photographier les mots. Alors, Augustine, la lecture silencieuse permet à l'enfant de photographier chaque mot et de comprendre ce que l'auteur dit dans la lecture. Et regardez bien un enfant qui lit la lecture silencieuse, après l'enfant peut vous raconter le livre en entier parce que chaque façade est gravée là, montrant sa tête. Et cet enfant-là regarde comment est écrit chaque mot aussi parce que l'enfant se concentre. Donc on photographie chaque mot, chaque mot. Ça veut dire être attentif à ce qu'on a vu hier, donc au cours d'une séance de grammaire, les deux P, les deux F. Augustine, l'enfant mémorise l'orthographe, l'enfant mémorise ce qu'on raconte dans la lecture. Donc pour cette intervenante, il apparaît clairement que la construction du sens des textes est une activité concomitante avec, qui joue avec celle de la fixation orthographique, de la mémorisation. On sait très bien que les bons lecteurs sont ceux qui se concentrent sur le sens et bien sûr laissent la forme littérale des énoncés. La nécessité de mémoriser l'orthographe engage aussi souvent une seconde charge familiale. Il s'agit de l'oralisation, censée permettre une meilleure mémorisation, une meilleure fixation de l'orthographe des mots. Donc Rama, 36 ans, mère au foyer, qui aide plus particulièrement, elle a de nombreux enfants, mais elle aide plus particulièrement Zachary, 11 ans, en grande difficulté. Donc Rama déclare, « Moi, je le fais faire la voix haute. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui me dit que quand on lit un mot à voix haute, on l'enregistre dans notre tête. Quand on lit, par exemple, cycle, quand j'ai levé la voix haute, ça veut dire que je me rappelle comment. Je me rappelle, quand il y a la voix haute, je le fixe bien. Je me rappelle, si je veux un jour écrire, pour moi, c'est rentré dans ma tête. » Donc, c'est pour qu'en même temps qu'on lit, donc, elle m'interrompt, l'enregistrer, on enregistre bien les mots dans la tête, comme c'est écrit. Donc, je laisse les quelques lignes qui suivent. Poussée à l'extrême, cette logique conduit la première intervenante sur laquelle nous revenons, Augustine, à développer un troisième niveau de travail orthographique, particulièrement complexe, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, Priscilla commence à lire un texte, donc cédant du doigt pour lire, vol de bijoux à l'hôtel Métropole. Augustine l'interrompt. D'abord, tu sais, tu as déjà mangé le E, ça ne va pas. Donc, Priscilla marquant le E muet. Métropole. Augustine, voilà. Donc là, j'ai un peu coupé, hein, donc la lecture continue. Donc, prenant garde à chaque fois de marquer les E muets. L'hôtel fait le ménage le matin en présence ceux de Célestineux et revient ouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. Autrement, elle ne met pas le pied ici. Comme eux le disait poursuivit Madame Olpassen. Je suis montée, j'ai ouvert ce tiroir. Elle désigna le tiroir de droite de sa coiffeuse. Alors, tu dis de sa coiffeuse, tu l'écris sans le E. Alors, moi, j'aurais dit de sa coiffeuse. Priscilla, oui, de sa coiffeuse. Augustine, parce que quand on est en orthographe, c'est-à-dire quand on est en dictée, la maîtresse, elle te dit la coiffeuse, et toi, tu sais que c'est la coiffeuse, donc tu comprends, allez, on y va. Donc, pour mieux préparer la dictée, elle impose à sa nièce de prononcer les E muets, vous l'aurez compris, c'est pas évident, moi-même, j'ai eu du mal à lire le petit passage. Donc, sur la lecture de deux pages, elle l'interrompt 35 fois, pour cette seule raison, sachant qu'il y a d'autres contraintes surnuméraires qui s'ajoutent encore, du type, enfin, je passe, mais ce ne sont pas les seules normes, surnormes qu'elle impose. Alors, sur quel principe didactique s'appuient les parents pour prescrire ces tâches? Il apparaît clairement qu'ils ont intégré des doxas pédagogiques, des légendes scolaires, qui porteraient sur les bienfaits de la lecture, c'est-à-dire lire aiderait à mieux écrire, aiderait à progresser dans toutes les composantes de l'enseignement du français, et passer dans l'alambic familial, ces doxas, qui renvoyaient en fait à un bienfait indirect de la lecture, deviennent des charges de travail actives et des charges de travail supplémentaires. Donc, à cette première doxa, donc lire aide à écrire, s'ajoute aussi, dans les deux cas, hein, une seconde pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser, mieux vaut réciter à voix haute. Donc, on a ici une référence à des doxas portant sur la mémoire auditive, en fait. Donc, tout ça s'amalgame. C'est ce qui conduit Augustine à développer cette pratique. Donc, voilà. Je dirais que cette doxa, parfois véhiculée par les enseignants, on se rend compte ici, il est difficile d'imaginer, en fait, à quel point elles peuvent être mises en œuvre et reprises de façon scrupuleuse par des familles. La surexigence didactique mise en évidence dans ces exemples, participe donc à construire la famille comme un milieu didactique qui, au nom de l'école, impose des normes qui n'ont en fait rien de scolaire et risque bien au contraire de venir perturber les apprentissages, comme peut le laisser supposer les échanges qui suivent, que j'ai eu avec Priscilla. Et toi, tu penses qu'il faut lire comment, toi ? Normalement, mais sinon c'est bien comme elle fait ma tante. Et à l'école, comment ça se passe quand tu lis à voix haute ? Tu marques les E ou tu évites ? Tu vas dire chose ou chose ? Priscilla, chose, mais des fois ça m'arrive d'oublier, de pas le dire. Quand tu lis, tu essaies de te concentrer sur quoi ? Sur les mots ? Oui. Sur l'orthographe des mots ? Oui. C'est-à-dire, tu vas te demander quoi, par exemple ? Tu vas regarder si le vent, il a un T ? Oui, des choses comme ça. D'accord, je comprends. Par exemple, tu vas essayer de mémoriser en te disant, ah tiens, si j'ai une dictée, un peu comme tu fais avec ta tati. Oui. Alors, bien sûr, Priscilla ne nous dit peut-être pas ce qu'elle fait réellement. Il y a ici un effet de... l'effet de l'entretien et de ma position d'enquêtrice, mais en tout cas, c'est ce qu'elle considère être une norme. Donc on voit bien ici comment la bonne volonté des intervenants peut tourner au piège, en fait, un piège qui se referme sur l'apprenant, et l'amenant à construire une représentation erronée des pratiques de lecture, mais aussi du travail sur la langue, sur l'orthographe. On aurait pu décliner cette même analyse avec d'autres enquêtés, pour d'autres composantes familiales de la lecture, hein, parce que lire, ça peut être aussi donc acquérir du lexique, ça peut être aussi oraliser parfaitement. Hein, donc on aurait pu développer cette analyse pour d'autres composantes qui, évidemment, chargent cette activité de lecture. Dans la deuxième partie de cette intervention, je voudrais revenir sur les pratiques de surprescription familiale, hein, le fait de prescrire du travail en plus. Il me semble que ces prescriptions ne découlent pas seulement d'une profonde intériorisation du principe de réussite méritocratique et de la croyance en l'équivalent travail. Mon travail d'enquête m'amène à en conclure que le plus souvent, il ne s'agit pas d'un simple redoublement bis du milieu scolaire, mais qu'il y a création d'un milieu spécifique et parfois peut-être concurrent. Les prescriptions familiales portent souvent sur des contenus de savoir traditionnels et recouvrent des formes purement transmissives. Il s'agit le plus souvent d'apprendre par cœur, de revoir des règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison. Ce sont des pratiques qui s'articulent vraiment autour de la leçon au centre et de l'application. Pour reprendre la terminologie de Bernstein, les familles prescrivent les familles qui prescrivent du travail en plus développent des pédagogies visibles qui ne requièrent pas du tout la réflexivité et la créativité qui est souvent attendue à l'école. Hein. Priscilla est une élève en très grande difficulté à l'école, mais dans l'univers scolaire familial, où on l'a fait beaucoup travailler sur de la grammaire, de la conjugaison, elle est une élève en fait qui donne relativement satisfaction par rapport aux normes familiales. Donc je passe sur... bien souvent, le piège est peut-être encore plus complexe dans la mesure où la prescription du travail en plus s'adosse à une véritable mécompréhension de l'univers didactique scolaire. En effet, le travail prescrit par une partie des familles tend à compenser, hein, donc tous ces exercices de grammaire en nombre donnés en très grand nombre, tendent à compenser ce que les familles perçoivent comme une sous-scolarisation de leurs enfants. En effet, beaucoup de familles sont désarmées devant les évolutions pédagogiques qu'a connu l'école depuis le temps de leur propre scolarité, et ils ne comprennent pas toujours donc ces nouveaux codes pédagogiques qui prédominent aujourd'hui. Donc si on se place de leur point de vue, il ne s'agit pas de pratiques de surscolarisation, mais plutôt il s'agit de mettre en place un système de scolarisation de substitution. Et le cas d'Adja que je vais essayer de vous présenter rapidement est tout à fait typique des logiques d'action d'un certain nombre d'acteurs familiaux, grands prescripteurs de travail en plus. Donc Adja, elle a 42 ans, elle est agent d'entretien, elle a 5 enfants, dont 2 qui souffrent depuis leur entrée en classe de 6e. Donc elle m'explique que ses enfants n'ont pas de devoirs à faire, ou pas assez, et je vois passer son fils... Merci. Je vois passer son fils Moussa, 10 ans, en CM2, donc avec un roman. Je l'interpelle et l'interroge. Et il m'apprend en fait qu'il a bien un travail à faire. Il a un livre à lire pour l'école. D'accord. Donc en fait, t'as des devoirs quand même. Hein. Moussa me répond donc, j'ai que ça. Adja, son devoir, 24 heures sur 24 sur un livre. L'école de l'autre côté... ils ont des livres de grammaire comme les collégiens. On leur donne des pages sur le cahier. Cette page, vous faites le devoir là-dessus. Mais lui, non. Il se débarrasse en leur donnant des livres comme ça. Allez vous occuper à la maison. Je préfère ce qu'un élève de CM2, donc s'adressant virtuellement aux enseignants, donner des livres de mathématiques, donner les livres de grammaire, donner des pages sur les cahiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ça ? Enquêtrice, donc. Bon, à ton avis, ben, à ton avis justement, qu'est-ce que ça peut apporter, ça, la lecture de ça ? Donc Adja exaspéré, moi je trouve que ça n'apporte rien. Alors ce qui est décrit par les textes officiels comme un enjeu capital de l'enseignement de la lecture, hein, l'acquisition d'une pratique usuelle, cursive de la lecture, n'est pas repéré comme, par Adja comme un enjeu d'apprentissage scolaire. On peut même dire qu'elle procède à la déscolarisation complète de cette activité qu'elle renvoie dans la sphère du divertissement et de la détente. Elle est scandalisée que les élèves puissent d'ailleurs choisir leurs livres eux-mêmes et qu'ils puissent par exemple emprunter des BD avec la bénédiction des enseignants. Alors même que l'école tente de déscolariser la pratique de la lecture, d'en faire autre chose qu'une pratique purement scolaire et rébarbative, là je me place du point de vue des élèves, alors que l'école essaye d'en faire une pratique qui est de l'ordre de l'intime, du privé, elle prône une rescolarisation immédiate de cette lecture. Donc, mais je préfère qu'ils lisent dans la classe. Dans la classe, ils lisent tous. Bah, le maître, l'enseignant, il vous dit, bah, ce mot-là, ça signifie quoi ? Si tu n'as pas compris, là, il te dit, prends le dictionnaire à côté. Il faut voir le mot, ça signifie quoi ? C'est pas la peine de lire. Tout le monde sait lire. Ce que je trouve, je trouve que c'est souvent un peu, ça sert à rien. D'accord. Donc, par exemple, quand il voit des mots de vocabulaire qu'il ne comprend pas, il n'y a personne qui l'oblige à chercher dans le dictionnaire. Voilà, dans le dictionnaire, dans leurs écoles, personne les oblige à chercher. Qu'est-ce que les mots ça dit, ça signifie quoi ? Il va juste lire, comme ça. Donc, la prescription de lecture cursive par les enseignants n'est qu'un indice parmi d'autres de la sous-scolarisation que perçoit et dénonce Adja, comme en témoignent les extraits suivants. Alors, on était en train de feuilleter en fait un manuel de France, le manuel de français de ces deux jumeaux scolarisés en sixième. Donc, je feuillette le manuel, tombant sur une séquence du manuel de français qui propose un travail sur une affiche de film. Et là, par exemple, c'est une affiche de film, ça. Adja, bof, moi je dis souvent c'est inutile, ça. Les acteurs, même les anglais, là, donc elle veut dire les en cours d'anglais. L'anglais qu'il fait souvent, c'est sur les noms des grands acteurs américains. Ça m'intéresse pas. Will Smith, Indiana Jones, les machins sur l'anglais. C'est pas très sérieux, quoi. Non. Donc, continuons à feuilleter le livre, on tombe sur une séquence qui porte sur l'affiche du film Kirikou. Donc, je lui dis, tu vois, Kirikou ? Elle me dit, voilà, c'est pas ce qui me... À quoi ça peut servir, ça, par exemple ? Moi, je trouve que c'est chez nous, les rédactions. On donne des rédactions chez nous, on donne pas les affiches. Alors, les ateliers, les sorties scolaires sont envisagées de la même manière. Dans les extraits qui suivent, et ce seront les derniers, on voit bien comment ces propres prescriptions massives de devoirs supplémentaires tendent à compenser ce qu'elle perçoit comme une défaillance de l'école. Donc, Adja, bah, aller à la ferme. Hein, elle parle des sorties scolaires. Aller leur salir, aller au cinéma, ça je déteste ça. Le cinéma, les dessins animés, souvent je dis non, ils partent pas. Je préfère les laisser ici, je les donne beaucoup de calculs, surtout à lui là, désignant de ses enfants. On s'occupe de ça. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à la ferme, aller voir les cochons, les machins? Il n'y a rien à apprendre. En fin d'année, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, l'enfant n'a pas travaillé. Une fois j'ai dit, mais l'enfant n'a pas travaillé. Dieu merci, mes enfants travaillent parce que je suis à côté d'eux. Sinon, s'il s'arrête à vous, c'est pas la peine qu'il va à l'école. Hein. D'accord, donc en fait, vous faites une grosse partie du boulot. Et elle répond, oui, c'est pour ça que j'ai laissé le travail du soir. Donc elle ne travaille que le matin très tôt pour pouvoir se consacrer à cette surscolarisation qui est en fait, pour elle, une scolarisation de substitution. Donc on voit bien que la forte, et c'est un cas assez typique d'intervenants familiaux grands prescripteurs, la prescription à forte dose de dictées d'anglais, d'exercices de conjugaison, de calcul, s'inscrit dans une logique de compensation qui a pour origine et qui étaye aussi l'idée que l'école... qui a pour origine une mécompréhension des codes scolaires et étaye l'idée que l'école est défaillante. De fait, on voit bien ici que ce sont dans deux milieux assez contradictoires qu'évoluent ces enfants. Donc à la fin de l'entretien, Adja me confie son projet, hein, celui d'une migration pédagogique, un retour vers le Mali, un retour vers les pédagogies visibles et vers des codes scolaires qui lui semblent plus appropriés. Alors, en conclusion, je m'excuse d'avoir été un peu longue. En intervenant dans cette table ronde donc sur le travail des élèves, mon intention était d'éclairer une dimension... rapidement et modestement, mais une dimension relativement méconnue du travail des élèves. Donc Patrick et Christine ont montré à l'instant que travailler à l'école sous le regard des enseignants ne relevait pas d'une évidence. J'ai essayé de montrer à quel point les choses pouvaient se compliquer quand il s'agit de travailler à la maison, sous le regard, sous la direction, puisqu'ils sont aussi prescripteurs, de parents qui ne sont pas nécessairement les plus disposés pour le faire. J'ai essayé de montrer que la bonne volonté donc pédagogique peut tourner au piège, et un piège d'autant plus cruel que, et ça c'est une des conclusions sans doute de mon travail, c'est qu'en fait ce sont toujours les élèves les plus en difficulté qui bénéficient de la prise en charge didactique familiale la plus poussée. Alors, mes meilleurs enquêtés, hein, ceux qui, avec lesquels je réalise les entretiens les plus intéressants, ceux qui ont poussé le plus loin la réflexion didactique, ben, ce sont des parents d'élèves en grande difficulté. Merci.